L'instant d'avant, nous étions tranquillement assis en cercle autour du prophète qui parlait, je m'en souviens, d'un dieu à naître. Il ne viendra pas sur un coursier blanc, disait-il. Comme le prétendent les hindouistes et les musulmans, il ne sera pas né d'un bonze, comme le veulent les bouddhistes, et ses mains ne verseront pas l'eau, mais elles verseront à flot l'énergie généreuse dont il sera nourri, et son coursier, qui l'emportera jusqu'aux étoiles, sera son propre esprit, discipliné par 40 ans de jeûne et d'ascèse. Il sera de la race de David et d'une famille de catholiques romains, car il ne saurait manquer un maillon à la chaîne qui mène de Ram au Yang, du Yang au Lamaou, du Lamaou à Marduk, de Marduk à Abraham, d'Abraham à Jésus, de Jésus à celui-ci, le nouveau Ram. Nous ne comprenions pas ces paroles. Cependant, leur rythme nous berçait. Je tournai les yeux vers Paloma. Elle s'était installée non sur un pouf ou dans un fauteuil bas comme nous, mais sur un siège étrange, fait de bois très élevé, une manière de trône, une cathèdre du XIIIe siècle, dit-elle. Si bien qu'assise, elle dominait Adjoran debout. L'observant, je voyais une fleur triomphante. Oui, cela me frappa. L'achèvement du fléau, qui nous paraît à tous comme une rémission, comme un pardon du ciel, lui devient une victoire personnelle. Elle y a survécu, donc elle est la plus forte. Maintenant, il lui faut Adjoran, puisque, parmi tous les hommes qu'elle a pu connaître, seule, elle ne l'a pas séduit. L'appel de son désir devait être irrésistible. Le prophète, soudain, cessa de parler. Ils se regardèrent. Des secondes ou des minutes qui suivirent, je ne sais rien. J'avais enlacé Rosa, heureux parce que la jeune fille répondait à mon étreinte et quémandait la caresse. Sur le divan où nous avions pris place, elle s'étendit, m'entraînant avec elle. Elle semblait croire que je l'aimais, et il est vrai que je l'aime. Mais alors, je ne l'aimais pas. Je la voulais mienne, comme j'eusse voulu une autre fille qui se fût trouvée là en cet instant. Je voulais l'amour, l'oubli, me libérer du désir exclusif et brutal qui m'était tout à coup une manière de supplice. La libération vint, et de nouveau la conscience. Je pus regarder autour de moi. Et le premier spectacle sur quoi se portèrent mes yeux fut le couple immobile, muet, au milieu du tumulte. Sur les divans, à même le sol, des couples s'enlaçaient, des gémissements sortaient des bouches des femmes, des halètements profonds et des cris rauques rythmaient l'inoubliable orgie. Adjoran et Paloma ne s'étaient pas quittés du regard. Lentement, elle se leva. Droite devant le prophète, ses pieds reposant sur la seconde marche de son trône, elle le dominait d'une double tête. Elle ôta sa tunique rouge, puis sa longue jupe en lamée. Pour la première fois, je la vis nue. Alors, descendant de son piédestal, elle ébaucha le premier pas d'une danse. De nouveau, nous perdîmes conscience du temps, seconde ou heure. Les couples se séparèrent, je crois. Confusément, je sentis les deux mains de Rosa se crisper sur mon bras, comme si elle eût voulu me rappeler à elle. Mais rien n'eût pu me détacher de la danseuse. Un être humain a donc la puissance, le don de se surmonter à ce point, d'annuler toutes les œuvres d'art par un seul mouvement de son corps. Un grand compositeur sait unir tous les sons dans une courbe harmonieuse, telle qu'aucun de ces sons n'est perdu par l'oreille. Un chef expert aussi sait préparer des mets où se fondent sans se perdre les saveurs les plus rares. Ainsi, Paloma s'offrait tout entière à nous, et la perfection même de sa beauté ne nous dérobait pas le moindre grain de sa peau. Nous pouvions accueillir à la fois la courbure de sa hanche et de ses lèvres, recevoir, comme ils se fussent incrustés dans notre chair, le modelé pesant de sa croupe et celui moins pondérable de sa chevelure flottante. Inaccessible tentation, je ne saurais la comparer qu'à ces spectacles, une plaine ouverte vue d'un mont, ou le firmament soudain stellaire, ces spectacles qu'il nous semble pouvoir toucher quand d'infinies distances nous en séparent et quand nous demeurons devant eux, étrangers, perdus, impuissants. Je ne vis pas Adjoran sortir. Personne, je crois, ni même Paloma ne le vit. Simplement, lorsqu'elle s'arrêta, un peu égarée par son tournoiement, elle sut, en même temps que nous le savions, que le prophète avait disparu. Avant que l'un de nous ait prononcé un mot et applaudi sa danse, Paloma s'élança. J'eus la brève vision d'un félin bondissant. Nue, oubliant sa nudité, elle quitta en courant la pièce où nous restâmes dans le silence, honteux d'avoir oublié. Quoi, en quelques heures, les innombrables morts. Fin du paragraphe écrit le 15 novembre. Décembre. Je ne sais si je poursuivrai ce journal. Je ne le crois pas. Mon impuissance à y écrire pendant tout le mois qui vient de s'écouler témoigne du peu de plaisir que j'en éprouve. J'y reviens, probablement pour la dernière fois, m'obligeant à noter dans une fraîche mémoire les circonstances abominables de la mort du dernier prophète. Arrêté le 4 au matin, chez les fidèles qui le cachaient depuis 2 semaines, il passait le 18 en jugement. La salle d'audience était comble, bien que l'entrée y eût été soumise à la présentation d'une invitation officielle. Le bruit avait couru que Hunedy en personne présiderait les débats, hypothèse totalement invraisemblable, même dans le cas où le général n'eût pas été retenu à Washington par ses nouvelles fonctions. Mais en fait, seuls les initiés savent comment tout s'est réglé par correspondance. Une lettre de Paloma au général avait suffi pour déclencher l'affaire. Un message de Hunedy au procureur Elkram a tenu lieu de mandat d'arrêt et ordonné occultement l'ouverture de la procédure. Je noterai brièvement, dans l'éventualité d'un probable lecteur, que cette procédure est aujourd'hui encore, dans la majeure partie de l'Afrique du Nord, très différente de la procédure américaine. La puissance d'occupation ne juge pas utile, en effet, de modifier un état de choses qui date de l'occupation française, auquel Arabes et Noirs sont habitués. Un juge arabe et 2 officiers supérieurs de l'armée de dissuasion constituaient le tribunal. Nous fûmes surpris d'abord que maître Houlboud se dressa en face du procureur, car nous pensions, étant donné les circonstances, qu'un avocat de moindre envergure serait chargé de la défense. Mais nous comprîmes bientôt que les jeux faits le renom ou le talent du défenseur ne présentait plus aucun inconvénient. Dès l'appel du jury, il devint évident que les protestations du maître ne modifieraient en rien la marche du procès. Sans doute maître Ulboud lui-même en avait-il conscience et ne tenait-il pas à assumer la charge d'une cause indéfendable ? À la fin de la première journée, il déposa des conclusions d'une telle violence que le tribunal devait les rejeter. Il fit alors connaître qu'il renonçait à la défense de son client et le président en prit acte. Pendant les 2 jours qui suivirent, un jeune stagiaire nommé d'office occupa le poste abandonné. Il l'assuma jusqu'au verdict, bien qu'il se montrât si réservé, timide et silencieux qu'il en était presque invisible. Dès le 19, toute l'attention du tribunal et du public n'eut d'autre objet que l'accusé lui-même. Les chefs d'accusation multiples se ramènent à celui-ci. Adjorant serait en rapport avec des ennemis de l'humanité, leur complice, un espion, un traître. Cette accusation, certes, ne laissera pas de surprendre les historiens qui s'intéresseront au procès. En fait, pour la comprendre, il faut vivre en ces jours où le mythe des grands galactiques est un article de foi pour la majorité des hommes. Ils n'aiment pas les hommes mettre en doute l'infaillibilité de la science, mais la vieille terreur du ciel demeure puissante sur les esprits. De même, en 1999, le phénomène des boules de feu était demeuré inexpliqué parmi les peuples, car une explication sincère eut mis en cause la recherche dont les imprudentes expériences avaient provoqué le fléau. Le phénomène des boules de feu, donc, était demeuré inexpliqué parmi les peuples, si bien que la fiction encore récente d'une menace extraterrestre y avait puisé du crédit. Depuis lors, d'autres drames, inévitables en une époque de développement technique, n'ont guère cessé de fortifier la fable. Aussi, ne peut-il surprendre que la grande panique survenue en pleine euphorie confirme pour les esprits simples la réalité d'un ennemi cosmique. Cela va si loin que ces dernières semaines, les grandes revues à sensations ont publié des articles spécialisés pour expliquer comment l'humanité est parvenue à triompher de la plus colossale agression de tous les temps. Puis, il faut à cette psychose ajouter le fait, inconcevable en soi, qu'au milieu de la panique universelle, un homme n'a jamais montré de crainte, mais qu'au contraire, cet homme semblait connaître d'avance le déroulement des événements. D'une manière ou d'une autre, le peuple de Tijika est ainsi résolu à châtier Adjorant de son insolent courage et de sa lucidité. Peut-être simplement le prophète fait-il honte à ceux qu'il a réconfortés quand personne ne trouvait de réconfort en soi-même. Il nous faut donc croire les pouvoirs officiels. En fermant au public les portes du tribunal, ils n'eurent peut-être d'autre dessein que de protéger l'accusé contre la foule. Il est également vrai que les comptes rendus d'audience s'étalent chaque jour en première page de La Vérité ou du Jour éclatant, le quotidien arabe, et que ces comptes rendus ne sont pas falsifiés. Pourquoi le serait-il quand le procès ne l'est pas? Avec une habileté proprement effrayante, le président se garde d'interroger le prophète sur le fond même de l'acte d'accusation, bien que toutes ces questions ne tendent qu'à confirmer implicitement la thèse populaire. Je recopie ici quelques fragments de l'interrogatoire préliminaire tels que je les ai sténographiés moi-même pendant l'audience. Par quelle voie te viennent tes prophéties ? Adjoran ne semble pas comprendre. Qui t'avait annoncé le fléau ? Qui t'avait fait savoir qu'il prendrait fin au mois de novembre ? L'homme entend, s'il sait écouter. Est-ce que les voix étaient diffuses dans l'atmosphère ? Ou bien connaissais-tu un moyen de capter des longueurs d'onde que nos postes ne peuvent saisir ? C'est une image pour les enfants que vous êtes, mais c'est une bonne image. Rumeur dans le public. Un juré se lève et proteste. Autre question. Est-il vrai qu'à aucun moment tu n'es redouté pour toi-même ? Craindre pour soi est le fait de l'ignorant. Donc tu n'ignorais rien et tu te savais aussi protégé par le ciel. La protection comme la menace ne saurait dépendre de moi. J'accepte humblement l'une et l'autre. Qu'as-tu accepté d'autre en paiement de tes services ? Quelle faveur ? Quel don ? Le don précède le sacrifice. Il m'a été donné d'abord d'être ce que je suis. Mais qui es-tu ? Quel titre te donnes-tu à toi-même ? L'annonciateur de celui qui vient. Et celui qui vient, qui sera-t-il ? Le roi. Il ouvrira les deux chemins de l'élection et de la sagesse. Il versera sur tous le feu des grands espaces. Et les uns, portés par le feu, deviendront pareils à des dieux. Les autres, rongés par la flamme, s'enfonceront dans le néant qu'ils souhaitent. Ici, de telles rumeurs éclatèrent dans le public que le président fit évacuer la salle et suspendit l'audience. Déjà, le prophète s'était condamné, puisqu'il venait lui-même d'avouer son crime. Le défilé des témoins, 230, qui suivit, ne pouvait qu'achever de nous en convaincre. On apprit qu'Adjoran se répandait journellement en menaces et en injures contre le peuple et l'humanité, qu'il appelait de tous ses voeux l'envahisseur, qu'il se retirait solitairement pendant des heures afin de communiquer avec les autres, qu'il feignait de se nourrir d'herbes et de lait, mais que sûrement il disposait de quelque aliment inconnu, sous forme d'énergie concentrée, suggéra le témoin fier de lui.